Marc, chapitre 11, verset 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il trouvait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple, et il les enseignait en disant « N'est-il pas écrit « Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. » Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent. Ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, ils redoutaient les réactions du peuple, car tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus. Nous ne savons pas. Jésus leur répondit, moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses.
Nous continuons ce soir l'étude de l'évangile de Marc. Dans notre passage aujourd'hui, nous sommes le lendemain de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Comme annoncé, le roi a fait son entrée. Mais comme il se fait tard, Christ ressort de Jérusalem pour passer la nuit à Béthanie. Et c'est là que notre récit a repris. Nous ne le cachons pas. Les deux événements rapportés ici sont compliqués à comprendre. Comment interpréter cette réaction de Jésus face au figuier, ainsi que la réaction de Jésus dans la cour du temple? Regardons à l'épisode de Jésus face au figuier tout d'abord. Il y a quelques semaines, je prenais la ligne 14 du métro. Et alors que j'arrivais sur la plateforme, le métro était là, les portes sonnaient déjà. Et il était évident que même Usain Bolt n'aurait pas réussi à courir assez vite pour rentrer à temps. Mais une personne à côté de moi, confiante dans ses capacités motrices apparemment supérieures, s'est mise à courir, seulement pour se faire bloquer par la première des deux portes, celle sur la plateforme. N'ayant d'autre choix, il dut s'extirper et laisser la porte se fermer, puis le métro partir sans lui. Mais s'extirpant, il donna deux grands coups de pied dans la porte, insultant et le métro et la porte allègrement au passage, nous laissant nos autres usagers stupéfaits. Une colère complètement injustifié. Jésus, devant le figuier, ne réagit-il pas de la même manière que cet homme ? Laissant ainsi sa colère éclater sans raison contre un pauvre petit figuier qui n'avait rien demandé. Cet épisode a de quoi surprendre, n'est-ce pas ? Voici ce qu'énonçait Bertrand Russell, mathématicien, philosophe et homme politique britannique en 1927 dans son livre « Pourquoi je ne suis pas un chrétien ?» Voici sa citation parlant de cet épisode du figuier. « C'est une histoire très curieuse, car ce n'était pas la saison pour les figues. Et vous ne pouviez donc pas vraiment blâmer l'arbre. Je ne peux pas croire moi-même qu'en matière de sagesse ou de vertu, le Christ soit aussi élevé que certaines autres personnes connues de l'histoire. Je pense que je devrais placer Bouddha et Socrate au-dessus de lui à cet égard. » Jésus est rapporté ici, du moins semble-t-il, comme étant impétueux, impulsif, colérique et injuste. Après tout, il est même indiqué dans le texte biblique que ce n'était pas la saison des figues. Et quand on rajoute la colère de Jésus dans le temple et une certaine violence lorsqu'il renverse les tables des marchands, c'en était trop pour Bertrand Russell. Jésus qui maudit un figuier. Ce n'est pas ici l'épisode le plus vegan de la vie de Jésus. Que nous faut-il retenir de ce passage ? Que Jésus est colérique, impétueux ? Qu'il a non pas un caractère sacré, mais plutôt un sacré caractère ? Jésus a faim, et le texte le dit, et comme tout homme, il serait ronchon quand il a faim. Est-ce là la raison pour laquelle Marc rapporte cet épisode ? Non. Revenons au texte pour comprendre de quoi il s'agit vraiment. Jésus a faim. Il voit un figuier et s'en rapproche espérant manger des figues. Et même si ce n'est pas la saison des figues, ce figuier aurait dû avoir des figues. Je ne suis pas moi-même expert des figuiers. Mais les commentateurs bibliques qui ont creusé la question et les horticulteurs vous le diront, il y a deux saisons pour les figues. Il y a les figues telles que nous les connaissons, qui viennent tardivement. Mais il y a une première saison de figues, avec des figues qui ne ressemblent pas aux figues telles que nous les connaissons, mais qui ressemblent plutôt à des baies. Ces petites baies commencent à apparaître juste avant les feuilles. Elles me sont, et on me l'a rappelé ce matin à l'issue du premier culte, délicieuses. Elles ont même un nom, mais que j'ai déjà oublié. Si un figuier a des feuilles, il y a ces jeunes figues. Et il est spécifié en Marc chapitre 11 que ce figuier était en feuilles. Si les feuilles sont présentes, alors il y a promesse de ces jeunes figues. Mais Jésus s'approche et il n'y a aucun fruit sur cet arbre. Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Puis le lendemain, Jésus et ses disciples repassent devant le figuier. Pierre l'aperçoit et sa surprise est grande. « Maître, ce figuier que tu as maudit est mort. Il est desséché. » Est-ce un hasard ? Si Jésus repasse devant le figuier avec ses disciples, certainement pas. Et c'est là la clé de compréhension de cet épisode. Il nous faut comprendre que cet épisode n'a pas comme objectif le figuier, mais les disciples. Ce que nous avons ici est une parabole de Jésus pour ses disciples. Il souhaite utiliser ce figuier pour faire comprendre quelque chose à ses disciples et pour nous enseigner quelque chose à nous aujourd'hui. Et la structure de ce passage nous permet de comprendre cela. Cette malédiction du figuier se fait en deux temps, les versets 12 à 14 tout d'abord, puis les versets 20 à 26 ensuite. Et entre les deux, nous trouvons le récit de Jésus qui chasse les marchands du temple. Une structure A, B, A. C'est une structure que nous retrouvons à plusieurs reprises dans l'évangile de Marc et plus largement dans le Nouveau Testament. Le but d'une telle structure est de montrer la pertinence de la partie B grâce aux parties A. Cette malédiction du figuier renvoie au récit qui se trouve en son sein, Jésus, dans la cour du temple. Ce figuier promettait, promettait du fruit, mais il n'y en a aucun. Le figuier est une image que l'on retrouve tout au long de l'Ancien Testament, une cinquantaine de fois, pour être plus précis. Le figuier est cité dès les premières pages de la Bible, ses feuilles servant à Adam et Ève pour se couvrir après le premier péché. Sa présence et sa prospérité sont le signe de la faveur divine, Deutéronome 8, verset 8, Michée 4, verset 4. Tandis que sa destruction tient une grande place dans les menaces des prophètes, Jérémie 5, verset 17, Habacuc 3, verset 17. Le figuier est utilisé dans l'Ancien Testament comme une image du peuple de Dieu. Une image du peuple de Dieu. Il était attendu du peuple de Dieu qu'il porte du fruit. C'est d'ailleurs tout autant le cas aujourd'hui. Notre étude le jeudi soir sur l'épître de Jacques nous le rappelle bien. Il est attendu du peuple de Dieu qu'il porte du fruit. Avoir des feuilles seules n'est pas suffisant. Le peuple à l'époque de Jésus ne portait pas de fruits. L'épisode du temple le montre bien. Relisons les versets 15 à 17. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il les enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Une caverne de voleurs. En Marc chapitre 11, nous sommes la semaine de la Pâque. C'était la semaine la plus chargée à Jérusalem et au temple en particulier. Entre 100 et 200 000 personnes venaient pour y fêter Pâques. Et tous venaient pour offrir des sacrifices à Dieu au temple. Beaucoup de ces personnes venaient de loin, si ce n'est de très loin, pour offrir des sacrifices à Dieu. Et ils n'allaient pas voyager avec leur agneau pour le sacrifice. Ils allaient les acheter sur place. Et s'ils ne pouvaient se payer un agneau, ils s'achetaient des pigeons. D'où la présence des vendeurs dans le temple. Ne nous trompons pas sur la raison de la présence des commerçants. Les marchands présents dans le temple ne sont pas là pour vendre des coques de téléphone portable ou des porte-clés à l'effigie du temple ou d'autres types de souvenirs. Ils vendent le nécessaire pour pouvoir offrir des sacrifices. Ce qui peut sembler compliquer encore la compréhension de ce passage. Après tout, comment Jésus peut-il chasser ceux qui permettent au peuple d'offrir leur sacrifice à Dieu? Mais en réalité, ces commerçants ne se souciaient pas des sacrifices de leurs frères, mais de leur propre business. S'ils sont au temple, ce n'est pas avant tout pour leurs frères éloignés, mais c'est pour leur portefeuille. Ainsi, l'offre et la demande, voilà leur motivation. Et oui, le prix hors saison d'un agneau, c'est 3 pièces d'or. Mais tu comprends, c'est la semaine de Pâques. Tu n'es pas le seul à vouloir t'acheter un agneau. Et il n'y en a plus beaucoup. Ce sera 6 pièces d'or. Pour 3 pièces d'or, tu peux avoir un pigeon. Mais crois-tu vraiment que Dieu va agréer le sacrifice d'un pigeon alors que tu avais quand même les moyens de t'acheter un agneau? Prends-moi un agneau et je te fais un pigeon à moitié prix. Et comme ça, un pigeon sera vendu à un autre. Et évidemment, il n'était pas possible de payer avec l'argent romain, à l'effigie de César. Quelle insulte! Cela serait à Dieu, n'est-ce pas? Et puis le taux de change avec la devise juive n'est vraiment pas favorable pendant la période de Pâques. Une caverne de voleurs. N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus ici cite Ésaïe 56, verset 7. Vous avez fait du temple de Dieu une caverne de voleurs. Jésus condamne l'hypocrisie présente dans le temple. Ces marchands ne sont pas venus adorer Dieu. Ils ne sont pas venus pour aider leurs frères à adorer Dieu. Et Jésus ne parle pas seulement des marchands, mais bien du temple dans son ensemble. Certains adorent Mammon, le dieu de l'argent. D'autres adorent le cérémoniel, le rituel. Mais ils n'adorent pas Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Le temple de Dieu, rappelle Jésus, devait être maison de prière pour les nations. Le temple, tout comme Israël, devait être témoignage pour les nations. Dieu souhaitait que son peuple soit comme une lumière dans un monde de ténèbres. Dieu avait instauré un système de justice sociale qui était, si appliqué, fondamentalement révolutionnaire. Le temple devait servir de témoignage aux nations. Au temple, le peuple était censé intercéder pour les nations. Le peuple de Dieu était en mission pour lui. De tout temps, le peuple de Dieu aurait dû se comprendre en mission pour lui. Le lieu de la présence de Dieu, ça ne devait pas être le temple seulement, mais cela devait être le peuple entier. Le peuple entier était censé manifester la présence de Dieu en son sein. Le peuple entier devait rendre témoignage, devait être témoignage pour les nations. Le peuple de Dieu aurait dû se comprendre comme en mission pour le monde. Cela, il ne l'avait pas toujours compris. Et pire encore, voilà que le monde est entré dans le temple. Vous avez fait de ma maison une maison de voleurs. Vous regardez non plus à Dieu, mais à vous seul. Alors quel lien avec l'épisode du figuier? Dans ces deux récits juxtaposés, Jésus face au figuier et Jésus dans le temple, Jésus est en colère. Pour comprendre le récit du figuier, il faut voir dans ce figuier un symbole d'Israël au temps de Jésus. Son absence de fruits est l'image de la stérilité du temple et des institutions juives du temps de Jésus. Comme il avait maudit le figuier qui desséchera dès le lendemain, Jésus chasse les vendeurs du temple et renverse leur table de change. Cet épisode de Jésus au temple est souvent appelé la purification du temple. Mais il y a bien plus que cela. Jésus condamne ici quelque chose de beaucoup plus fondamental. Il y a quelque chose dans le rituel du temple, dans l'offrande des sacrifices, qui sera dépassé. Jésus n'est pas en train de purifier le temple. Il est en train de le dissoudre. La dissolution du temple et de son système sacrificiel. Voilà comment il nous faudrait nommer cet épisode. La dissolution du temple. Et ainsi, c'est Jésus qui annonce ce qui était déjà dit dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 7, verset 11. « Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé ? Moi-même, je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. » Jérémie 8, verset 13, « Je veux en finir avec eux, déclare l'Éternel. Il n'y a plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétrissent. Ils sont passés à côté de ce que je leur avais donné. » Jésus annonce la destruction à venir du temple. Mais plus encore, il annonce la fin de l'ancienne alliance. Pas surprenant que les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens viennent voir Jésus dans les versets 27 et suivants. Comment peux-tu dire cela? En parlant ainsi du temple de Dieu, c'est Dieu que tu blasphèmes. Le temple est le lieu de la présence de Dieu. De quelle autorité peux-tu dire ce que tu dis au sujet de la maison de Dieu? Jésus, connaissant la dureté du cœur, savait que leur question n'était que rhétorique. Leur désir n'est pas de savoir qui est Jésus ou d'où lui vient cette autorité, mais c'est de trouver une excuse pour pouvoir l'arrêter et le mettre à mort. Mais son heure n'est pas encore venue. Jésus avait encore bien des choses à faire et bien des vérités à annoncer. Et si Jésus ne prend pas le temps ici de s'expliquer, permettez-moi de le faire avec vous. J'ose espérer que votre cœur, notre cœur, et dans de meilleures dispositions que ceux des interlocuteurs de Jésus. En janvier 2018, nous commencions l'étude de l'évangile de Marc. Ce que Marc a rédigé, ce ne sont pas seulement des mémoires sur Jésus-Christ, un grand homme, ni même comme la biographie du plus grand homme qui ait jamais existé, mais ce qu'il a écrit a comme but de présenter Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu sur terre. Le but de Marc, par son évangile, c'est d'interpeller, de faire réfléchir le lecteur. Qui ce Jésus peut-il donc être ? Voici comment débute cet évangile. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Qui est Jésus ? Marc n'attend pas longtemps avant de nous donner la réponse. Dès le premier verset, il répond à cette question. La bonne nouvelle, évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Son seul nom résume parfaitement sa personne et son œuvre, Jésus, ce prénom qui veut dire en hébreu « Dieu sauve, Dieu délivre ». Mais ce n'est pas tout, Jésus, Jésus-Christ, il est le Christ, ce n'est pas là un surnom, ce n'est pas un prénom composé comme Jean-Marc ou Anne-Marie. Jésus est le Christ, le Messie, c'est un titre qui lui est donné. Celui que Dieu a choisi. Jésus, celui que Dieu a choisi. Dieu souhaite que l'on sache qui est Jésus. Il est celui que Dieu lui-même a choisi pour sauver. Celui que Dieu a choisi pour sauver. Plus encore, il est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce Jésus est le Fils de Dieu. Il est Seigneur, pleinement divin, éternel, immuable, parfait. Il est Dieu. Jésus n'est pas un homme parmi d'autres. Il n'est pas un prophète parmi d'autres. Il est le Fils de Dieu venu sur terre pour sauver l'être humain. Son autorité, pour répondre à la question des interlocuteurs de Jésus au verset 27, son autorité, elle vient de sa personne. Parce qu'il est Dieu. Et comprenons pourquoi Jésus se met en colère. Si Jésus se met en colère, s'il annonce la dissolution du temple et de l'ancienne alliance, c'est parce qu'il aime son peuple. Parce qu'il aime son peuple. Jésus n'est pas colérique, il est aimant. Il souhaite que le peuple comprenne. Jésus n'est pas venu pour condamner un peuple. Mais au contraire, il est venu rechercher ce qu'il y a de meilleur pour ce peuple. Et plus largement, ce qu'il y a de meilleur pour l'humanité entière. Quand Jésus annonce que le temple sera détruit, ce qu'il dit en filigrane ici, qu'il annoncera de manière directe en Marc chapitre 13, et que l'ancienne alliance et que tout le système sacrificiel qui la compose sera dissoute, ce n'est pas une punition contre le peuple et ses institutions. Mais c'est parce qu'il est venu pour instaurer une ère nouvelle. Il est venu instaurer une ère nouvelle. Une ère où le peuple n'aura plus à apporter constamment des sacrifices pour être pardonné, parce qu'il sera pardonné. Une ère où Dieu ne résidera pas seulement dans un temple, mais dans le cœur de chacun de ses enfants par son Saint-Esprit. Une ère où le peuple de Dieu ne sera plus limité géographiquement à un seul endroit et où il pourra enfin être maison de prière pour les nations. Oui, Jésus est venu instaurer une ère de paix spirituelle, une alliance de grâce. Jésus est venu offrir le sacrifice parfait, lui l'innocent prenant la place du coupable. Si Jésus se met en colère, c'est parce qu'il aime profondément son peuple. Ne croyez pas que vous êtes en paix avec Dieu parce qu'un agneau ou un pigeon est mort à votre place. Vous êtes en paix avec Dieu parce que moi, l'agneau parfait, nous dit Jésus, je vais mourir à votre place. Je vais mourir à votre place. Le temple ne porte aucun fruit. Il y a beaucoup de feuilles, certes, mais pas un seul fruit. Je suis venu, nous dit Jésus, instaurer une ère nouvelle, une ère riche en fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Jésus est venu instaurer une alliance nouvelle avec nous, une alliance qui était déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Je vous invite à lire Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Jésus est venu pour abolir l'alliance de péché et instaurer l'alliance de grâce. Et pour ce faire, il va aller jusqu'à s'offrir lui-même en sacrifice à la croix pour quiconque croit en lui. Quelle preuve plus grande de l'amour de Dieu peut être donnée que celle-ci? Il va aller jusqu'à s'offrir en sacrifice pour l'être humain. Quelques applications pour conclure, et je me limiterai à deux pour ce soir. Une maison de prière pour les nations. Dieu souhaitait que son peuple soit comme une lumière dans un monde de ténèbres. De tout temps, le peuple de Dieu était en mission pour Dieu. Nous le sommes aujourd'hui. Et il mentionne ici l'un des aspects de cette mission, la prière. Ma maison sera une maison de prière. Mon peuple sera un peuple de prière. Le sommes-nous ? Le sommes-nous ? Prions-nous pour notre marche avec Christ ? Pour notre fidélité au Seigneur ? Pour la fidélité au Seigneur de nos frères et sœurs ? Pour la fidélité de notre Église ? Prions-nous pour nos proches qui ne connaissent pas encore Jésus ? Prions-nous pour le patron ou le collègue qui semble souhaiter notre tête ? Au sens figuré, je l'espère, pour vous. La prière est l'un des deux poumons qui devrait rythmer notre marche avec Jésus. Le deuxième étant l'étude de la parole. Sans prière, nous allons très vite nous essouffler. Ma maison sera une maison de prière. Ne tardons pas avant de nous lancer dans la prière. La prière transforme tout autant que la lecture de la Bible, si elle est inspirée par celle-ci. Deuxième application que je formulerai sous la forme d'une simple question, pour reprendre l'image du figuier, portons-nous des feuilles ou des fruits ? Portons-nous des feuilles ou des fruits ? Si nous ne portons que des feuilles, alors il nous faut revenir à la personne de Jésus et à son œuvre. Comprenons que nous devons tout à Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous transforme. Si nous ne portons que des feuilles, alors revenons aux évangiles. Regardons à Jésus. Et prions que Dieu nous donne la grâce de porter du fruit pour lui. Cette prière-là est selon sa volonté. Et toute prière qui est conforme à la volonté de Dieu, il y répond favorablement. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jésus lui-même, dans ses versets 22 à 24. « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Que Dieu donne à sa parole de porter du fruit dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.